Amis lectrices, bonjour, sentez-vous les bienvenus. Alors aujourd'hui, vendredi 24 avril 2020, il est 18h30, passé de 2 ou 3 minutes, c'est donc l'heure de notre pause littérature quotidienne. Alors je suis véritablement heureux de vous retrouver pour ce troisième rendez-vous du Facebook Live Exilium. Durant lequel, maintenant ce n'est plus une surprise, je me suis engagé à lire l'intégralité du tome 1 de mon roman fantastique Exilium, qui se déroule dans le département du Cher, plus exactement à Saint-Amand-Montrond, dans le cadre, au sein du lycée Jean Moulin. Alors nous sommes ensemble jusqu'à 19h environ. Alors c'est vrai, tous les soirs je parle de 19h et je dépasse un petit peu parce que il n'est pas toujours possible d'interrompre une lecture en plein milieu d'un paragraphe ou d'une page, cela casserait l'action. Donc ce soir, je vais en revanche tâcher de mieux respecter l'horaire parce que nous allons voir ensemble l'intégralité du chapitre 2, mais la lecture est un petit peu plus courte que les autres jours. Alors j'ai eu des retours très encourageants sur ce Facebook Live, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, dont en particulier la proviseure en service depuis l'année dernière au lycée Jean Moulin, qui je pense a dû passer par là pour s'assurer définitivement qu'il n'y avait pas de fantômes qui circulaient dans le dortoir dans l'internat des filles. Sa réponse, elle l'aura un petit peu plus tard. J'aimerais également saluer Marie-Hélène. Alors Marie-Hélène qui me dit écouter le replay le matin au petit déjeuner. Alors ça c'est sympa. Hein, et d'ailleurs les replays sont tous disponibles hein, sur la page Exilium. Donc n'hésitez pas à les consulter. Ah, hier également, j'ai oublié de vous le dire, on était le 23 avril, ça ce n'est pas un scoop, mais c'était la journée du livre qui a été créée en 1995 par l'UNESCO. Alors c'est une journée qui a été mise en place pour promouvoir la lecture, la publication, les droits d'auteur. Enfin voilà, maintenant c'est fait, l'oubli est réparé. Donc comme je vous le disais il y a quelques secondes, les vidéos de lecture des deux jours précédents sont en replay sur la page Facebook où vous êtes actuellement. Et je vous invite à les écouter bien entendu si vous souhaitez commencer le livre par le début. Mais sur chacune de ces vidéos, en replay, j'ai enregistré un commentaire dans lequel je place un résumé des lectures précédentes. Cela vous permettra de vous guider dans l'histoire. Et donc, comme d'habitude, en fin de lecture, eh bien, je jetterai un œil sur vos messages pour répondre, vous saluer, en essayant bien entendu d'oublier personne. Maintenant, on va avancer dans l'histoire, c'est l'heure d'entrer dans le cœur du sujet. Alors, comme tous les soirs, installez-vous confortablement, laissez vos soucis de côté, profitez de l'instant. De mon côté, je remets mes lunettes. Je vais également déplacer un petit peu ma tête qui apparaît sur la vidéo, car je ne voudrais pas vous déconcentrer. Maintenant, c'est parti pour la lecture elle-même. Résumé des lectures précédentes. Après son grand week-end de repos, Frédéric, assistant d'éducation dans un lycée, reçoit de bonne heure le mardi matin un appel de sa chef de service. La tempête de neige, commencée 3 jours plus tôt, n'est pas terminée et l'établissement est fermé pour la semaine. Malgré tout, l'internat des garçons doit rouvrir pour accueillir les quelques élèves qui n'ont pu rentrer chez eux et n'ont bénéficié que d'une solution d'hébergement temporaire durant le week-end. Frédéric est le seul AED disponible car il habite près de l'établissement où d'ailleurs il se rend à pied en bravant le vent et les flocons. Le condescendant proviseur qui habite sur place lui donne quelques instructions d'usage sur l'organisation. Les internes qui dormiront à l'internat ont jusqu'à midi pour se manifester. Le premier arrivé est Guilhem, qui doit repartir chercher son camarade Kevin, grippé et affaibli par la fièvre. Guilhem est ravi, un peu trop peut-être, que ce soit Frédéric qui surveille les 3 nuits à venir, et se propose même de devenir son gardien. Frédéric pense au début à un jeu d'adolescent un peu puéril, mais les propos de l'élève le laissent malgré tout perplexe. Guilhem se charge de protéger Frédéric de lui-même. Puis les autres internes arrivent ensemble, peu de temps après Guilhem. Entre-temps, Lewis, un externe qui habite juste en face du lycée, attend sous la neige son camarade Guilhem pour aller ensemble chercher Kevin avec ses bagages. Frédéric parvient à échanger quelques mots avec lui, mais l'élève semble mal à l'aise pour une raison qui lui échappe. Frédéric lui propose de le revoir un peu plus tard pour en parler éventuellement. Les internes sont maintenant réunis. Il ne reste plus qu'à leur ouvrir les portes de l'internat. Chapitre 2. Mardi soir. Après avoir transmis à la hiérarchie et aux cuistots les effectifs d'internat pour la semaine, j'avais préféré boycotter le déjeuner au lycée pour réintégrer mon doux foyer. Ce devait être sur le coup de 13 heures. J'étais repassé par le même chemin que l'aller, afin de ne pas avoir à écraser la neige. Marcher comme une cigogne est plutôt épuisant pour un être humain. Je m'étais avant cela assuré auprès du cuisinier que le réfectoire était opérationnel. Il me promit qu'il profiterait du peu d'élèves présents pour leur préparer des petits plats qui sortiraient autant de l'ordinaire que du congélateur. Enfin, avant de prendre congé des internes occupés à vider leurs valises, je les avais bien rassurés en insistant sur le fait qu'ils ne seraient jamais seuls en journée. Le proviseur était dans son bureau et j'étais joignable par téléphone à tout moment. Ils avaient tous bien pris soin de noter mon numéro, et pas sur des bouts de papier, et je leur faisais suffisamment confiance pour en faire bon usage, vu les circonstances. 17h25. Après être passé en coup de vent à la vie scolaire, récupérer les clés, que je décidais de conserver sur moi pour la semaine, j'empruntais la direction du bâtiment d'internat. Nos traces de pas laissées le midi suffirent à baliser le chemin dans l'épaisse poudreuse alors que la nuit était déjà tombée. Le ciel était bas, mais le champ de vision réduit. La neige tombait par intermittence, mais le vent était permanent, plus ou moins violent. Au-dessus du bâtiment d'internat, la lune était à peine perceptible. Elle formait plutôt une boule diffuse, comme une ampoule allumée derrière un verre dépoli. Les seules lueurs utiles étaient celles du foyer, au rez-de-chaussée, et juste au-dessus, à l'étage des garçons. Mais cela ne suffisait pas à vaincre une insolite sensation d'isolement, renforcée par un silence, sauf le vent bien entendu, un silence auquel un lycée n'est pas accoutumé. La voûte nuageuse, ténébreuse, amplifiait ce manque de luminosité, et il faudrait encore s'attendre à un assaut de flocons dans la nuit. Avant de monter au dortoir, je m'arrêtai un instant au foyer, carrefour de la décontraction que les murs d'un rouge violacé faisaient ressembler à un gigantesque pub anglais. Personne. Personne devant le téléviseur géant dans la salle principale du foyer. Personne dans la seconde petite salle télé. Même la salle de musique était inoccupée. Et les fauteuils, mal rangés. Comme d'habitude. Seul le bruit ininterrompu de la vieille chaufferie occupait l'espace. Mais je préférais interpréter ce vide comme une bonne nouvelle, finalement. Les 7 internes devaient tous être dans leur chambre, à l'heure pour l'appel. Mon principal souci n'était pas tant de tous les retrouver. Ils n'étaient pas nombreux, ce dont je ne doutais pas un instant. Que de les voir s'occuper sans faire trop de bêtises. Et ça, ce n'était pas gagné, car je n'avais pas hérité que d'élèves dociles. Je laissais le foyer éclairé en prévision de la soirée. Puis je montais à l'étage pour retrouver les 7 pensionnaires de la semaine. Tout d'abord, Guilhem. Nous l'avons déjà vu en vie scolaire. Puis Kevin, son camarade pauliste, malade. Un des internes les plus effacés d'ailleurs. Il n'avait pas besoin d'une grippe pour l'effacer davantage. Brun, élégant, timide et réservé. Il parlait peu. Attitude qui a incité ses camarades les plus taquins à en faire parfois leur bouc émissaire. Mais rien de méchant. Étienne, le troisième pauliste. Un garçon aussi discret que Kevin, sans grosses histoires. Mais il n'était pas rare que sa susceptibilité excessive entame sa bonne humeur dès le premier quart de tour, jusqu'à le conduire les mauvais jours à tutoyer la frontière de l'impertinence. Sylvain, le cerveau du dortoir. Un élève calme et d'une grande vivacité d'esprit. Son avenir dans les activités à caractère scientifique était tout tracé. Il passait ses soirées silencieuses à travailler, jusque tard le soir, comme s'il composait ses devoirs 3 fois de suite pour en garantir l'excellence. Mais ses notes étaient à la hauteur du travail fourni, puisqu'il obtenait les plus élevés du lycée. Puis venait le trio infernal, les plus jeunes des internes présents. Jimmy, également vu en vie scolaire. Monté sur un ressort, il était le chef de la bande des 3. Oh, gentil garçon, mais fervent adepte du mensonge pieux pour échapper aux conséquences de son indiscipline. Il parvenait à surprendre tout le monde quand il se posait pour travailler. Tout à fait capable du plus grand sérieux quand les circonstances l'exigeaient. Tout au plus pouvait-on regretter la rareté de ces circonstances. Samy, un jeune très drôle. Redoutable danger pour la tristesse. Il avait appris à compenser le non-handicap de sa petite taille par une intelligence et une finesse telle qu'il était aisé de comprendre pourquoi le système scolaire l'ennuyait. Une lassitude qui l'empêchait de rester en place et stimulait son adoration pour Jimmy, qu'il voyait comme le gourou idéal pour les bêtises. Quentin, jamais 203, plutôt simple, gentil et poli. Mais ce grand mouton devant l'éternel n'existait que par la complicité qu'il entretenait avec ses 2 compères. Quel dommage qu'il n'escorta pas les bonnes personnes, car sa capacité d'adaptation au pire des environnements forçait le respect. Inutile de préciser que Jimmy, Samy et Quentin dormaient dans la même chambre. L'internat garçon occupait toute la surface du premier étage. Depuis le palier, une porte coupe-feu donnait sur un sas éclairé par une large fenêtre. Puis, une porte à 2 battants à verrouillage magnétique constituait la dernière barrière avant l'accès au cœur du dortoir. Les pièces, ou plutôt les chambres du dortoir, étaient aménagées des 2 côtés de l'unique couloir qui traversait l'étage. La salle de douche individuelle à gauche et les toilettes à droite amorçaient la visite. Puis les 6 chambres étaient réparties de part et d'autre du couloir, 3 de chaque côté, chacune plus ou moins de même dimension. Ces chambres sans porte, de 4 ou 6 lits superposés, sans aucune isolation phonique, bénéficiaient pour seule commodité d'un miroir et d'un évier commun, ainsi que d'une lampe de chevet près de chaque lit. Le manque d'intimité était compensé par une certaine idée de la décoration sur les façades extérieures des chambrées. Ainsi, côté lit s'est levé un bardage à clin en bois massif. Côté évier, des panneaux quart de cercle en verre dépoli montaient jusqu'à 1 mètre du faux plafond. Avec un peu d'imagination, l'ensemble donnait un petit cachet chalet suisse, malgré un éclairage que d'aucuns jugeaient insuffisant. La dernière chambre à droite était celle des assistants d'éducation. Chambre peu lumineuse et austère à l'excès, qui serait donc la mienne 3 nuits consécutives. je fus étonné de ne pas entendre un seul bruit dans le dortoir. Et pas un ne se manifesta non plus, sa présence, malgré le grincement crispant de la porte d'entrée. Avant de rejoindre ma chambre au bout du couloir, je passe en premier devant celle de Kevin. Sur la surface du plus surhaussé des deux lits superposés, les formes vallonnées d'un duvet trahissaient la présence de son propriétaire. Je m'approchai du malade à pas de loup, puis tentai la communication. « Kevin, c'est Frédéric. Tu dors ?»«
Oh, pas en ce moment, »
répondit une petite voix. Puis Kevin se retourna dans ma direction et, comme une tortue, parvint à extraire la tête de sa cachette moelleuse. Je poursuivis la conversation qui n'allait de toute façon pas s'éterniser. « Les médicaments, ils te font effet ?»«
Ouais, ça me fait du bien, mais j'ai encore de la fièvre, je préfère rester au pieu. » Oh putain, je suis HS.
Ah, t'es pas obligé de dire des gros mots même si t'es malade. Allez, pas de soucis. Tu restes au chaud. Plus que quelques jours à tenir, après tu seras sur pied, le temps que le virus capitule. Je demanderai à Guilhem de t'apporter tes plateaux repas et une bouteille d'eau fraîche jusqu'à ce que tu ailles mieux. Mais il va falloir que tu te forces à manger un peu, même si tu n'as pas faim, sinon tu vas t'affaiblir encore plus. Bon, en attendant, reste solide. De toute façon, il n'y a rien à faire dehors. Sinon, tu as besoin de quelque chose en particulier ?
Non, j'ai juste envie de dormir. Je supporte pas la fièvre. Chaque fois, ça complique tout. J'ai encore du mal à maîtriser ça.
Oui, je sais, Guilhem a parlé de ta fièvre. C'est une réaction naturelle du corps sale envahisseur. Hein. T'as pas à t'inquiéter, c'est bon signe. Mais ce que je comprends pas, c'est... Pourquoi c'est plus spécialement un problème pour toi ? Qu'est-ce que ça complique ? Tu as un souci de santé en particulier ?
Ah... Je n'aime pas la fièvre, c'est tout.
Écoute, Kevin, je ne connais personne qui trouve ça agréable, mais ça ne durera pas, rassure-toi. La fièvre est un signe que tes défenses naturelles fonctionnent. Allez, dors. On s'occupe de toi. Et pense à prendre tes médocs pour atténuer la douleur. Kevin remit sa tête sous le duvet, puis se tourna en direction du mur pour ne plus être dérangé par l'éclairage du couloir. En sortant de sa chambre, je ne pus m'empêcher de repenser aux explications alambiquées de Guilhem sur les difficultés de son camarade à supporter la fièvre, une souffrance pourtant aussi commune que récurrente. Cela générait-il chez Kevin des crises d'angoisse ou autre chose de ce genre ? J'imagine que nous aurions été alertés par le pauvre cycliste ou les parents si une surveillance médicale particulière s'imposait dans son cas. Et surtout, je me serais attendu à moins de propos évasifs de la part des deux polices. Enfin bref... La réponse arriverait de toute façon en temps voulu. Peut-être pas. Ma priorité du moment était de retrouver les 6 autres loustiques. Dans la chambre, face à celle de Kevin, j'aurais dû rencontrer Sylvain. Mais là aussi, personne. Dans la chambre au centre du couloir, à gauche, je m'attendais à voir les 3 terribles. Personne. Puis la dernière chambre fut la bonne. Celle qui faisait mur mitoyen avec la mienne et était censée n'accueillir que Guilhem et Étienne. J'y découvris un conglomérat de 6 corps agglutinés sur un seul lit dans des positions que la nature semblait ne pas avoir prévues. 6 perdus se partageaient le flux d'images hypnotiques issues d'un minuscule écran à l'angle de vision que je devinais réduit, solidaire d'un ordinateur portable d'où sortait un son aussi faible que nasillard. Je préférais ne pas les déranger dans leur visionnage et m'assurer retrouver les bonnes personnes à bord plutôt que des têtes anonymes venues s'inviter pour une séance gratuite de cinéma. Un dernier coup d'œil dans les autres chambres, avant de déposer mes affaires dans la mienne, finit de me rassurer sur la tranquillité des lieux. L'extrémité du couloir donnait sur un nouveau sas par des portes battantes. La fenêtre qui éclairait l'endroit offrait comme unique paysage le bureau de la vie scolaire, malgré un premier plan sur un sapin somptueux qui dissimulait la vue vers le bâtiment administratif. Dans ce sas, sur la gauche, une petite salle informatique, verrouillée par magnétisme. Elle accueillait 2 ordinateurs connectés, mais réservés de façon exclusive aux travaux de recherche des internes. Du moins... En théorie, je n'imaginais pas un seul élève devant un écran sans un coup d'œil sur son réseau social préféré.
Le local à côté de la salle informatique était étriqué et il servait de réserve pour des matelas ou des couvertures. Enfin, face aux deux pièces, l'issue de secours avec sa porte coupe-feu renvoyait au rez-de-chaussée et sur l'entrée principale du foyer pour une évacuation directe et rapide en cas de nécessité. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avions pas eu l'opportunité de l'essayer, c'est tant mieux. De l'essayer du moins pour les cas d'urgence. Refermer la fenêtre du SAS près de la salle informatique fut l'activité la plus exténuante de ce début de soirée. C'est dire l'ennui qui s'annonçait. Mais je me demandais bien ce qui avait pu motiver son ouverture avec la température qu'il faisait à l'extérieur. Avant de verrouiller la poignée, je vis que des flacons recommençaient à tomber, ballottés avec grâce et subtilité par un vent qui paraissait prendre un peu plus d'intensité à chaque tourbillon. Une nuit agitée se préparait. Aussi espérais-je que cette nouvelle vague neigeuse ne rajoute une couche supplémentaire trop importante par-dessus celle déjà présente. Avant de préparer mon lit, bon, juste un duvet étendre, hein, 3 secondes, je sortis le cahier d'internat de mon sac pour l'appel rituel des élèves. Un appel qui serait toute la semaine simplifié à l'extrême, mais devait être renouvelé 2 fois, jusqu'à l'heure du coucher. Il me restait un coup de fil à passer au proviseur pour le rassurer sur le bon déroulement de la soirée. Mais à peine eut-il décroché qu'il entama lui-même la conversation. « Frédéric, j'attendais votre appel. Comment ça se passe avec vos pensionnaires ?»« Ils vont très bien, monsieur, je vous remercie. » Sauf Kevin qui est au lit avec sa grippe. Mais bon, les médicaments le font dormir, donc je ne m'inquiète pas outre mesure pour lui. Les autres regardent un film sur un ordinateur, je ne les entends pas, ils sont sages comme des images. Eh bien c'est parfait, dans ce cas, tout se passera bien. Ah, c'est intéressant. Guilhem a sorti la même tournure de phrase aujourd'hui. Tout se passera bien. Comme s'il existait un risque que la lune nous tombe sur la tête cette nuit. La lune est pleine, mais elle n'est pas plus lourde que d'habitude et la reste bien accrochée, j'en suis convaincu. Je vous rappelle que vous pouvez me joindre à tout moment par le numéro interne. Il n'est pas impossible que je m'absente une partie de la soirée, donc si je ne réponds pas, ne vous inquiétez pas. Très bien, monsieur. Une dernière question avant de raccrocher. Vous seriez au courant d'un souci de santé en particulier concernant Kevin? Il semble supporter difficilement la fièvre. Pour une raison que je n'arrive pas à définir, puis lui-même est très discret sur le sujet. Bon, vous savez, Frédéric, la jeunesse de maintenant est fragile et trop assistée. Il faut les rassurer en permanence. Je compte sur vous pour que Kevin survive à ce qui n'est rien d'autre qu'un gros rhume avec un peu de fièvre. Le pôle cycliste me l'a assuré. Je vous laisse. Passez une excellente fin de soirée et une bonne nuit. Bon, merci, monsieur le proviseur. Bonne soirée également. Le proviseur était de toute évidence pressé. J'étais là, bien présent avec les internes, c'est tout ce qui lui importait. Il ne donna pas le sentiment de se soucier du moral des jeunes, qui auraient préféré, j'imagine, passer leur semaine avec leur famille. J'avais aussi trouvé un tantinet et désinvolte sa façon de considérer la santé de Kevin. Mais bon, j'imagine que son expérience de chef d'établissement l'autorisait à ne plus s'inquiéter au premier éternuement d'ado. Voilà! Les internes sont enregistrés, le lit est fait, l'appel est passé. Il ne restait plus qu'à patienter jusqu'à l'entracte ou la fin de la séance pour retrouver les cinéphiles. En attendant, j'empoignais ma tablette tactile et m'installais derrière la grande table disposée juste à la sortie de ma chambre. Une place traditionnelle pour faire l'appel des élèves. Une table aussi lourde que l'aide qui prenait presque la largeur du couloir. Mais y établir son poste de garde permettait de concentrer tout le dortoir dans son champ de vision, ce qui la convertissait en un lieu stratégique, même si les pierres sottises se tramaient en général dans le secret. 19h10. La séance ciné perdurait. J'étais conscient du sacrilège que pouvait représenter son interruption, mais j'en pris le risque. Je débarquai dans la chambre cinéma, puis leur demandai d'une voix feutrée « Les jeunes !» « Nous sommes attendus au self pour le repas. Vous en avez encore combien de temps avec votre film ?»« Il est fini, mais là on regarde des vidéos marrantes sur YouTube !» répondit Samy. Il ne fut pas nécessaire de me lancer dans plus d'éclaircissements. Les 6 hominidés se dégrafèrent sans délai l'un de l'autre après quelques clignements pour réhydrater leurs yeux.
Puis, l'ordinateur fut mis en veille et les six internes retournèrent dans leurs chambres respectives afin de saisir leurs manteaux et leurs cartes magnétiques de cantine. J'en profitais pour interpeller Guilhem. Tu t'occupes du plateau pour Kevin, hein? C'est ok, Guilhem?
Ouais, ouais, pas de soucis, French, je m'occupe de lui toute la semaine, c'est promis.
Oui, je sais, je compte sur toi. Je voulais juste m'en assurer une dernière fois. Mais ne cherche pas trop ces plateaux, hein, quand même. Il ne valera pas tout, vu son état.
Oh, tu sais, Fredo, tu ne le connais pas, c'est un gros mangeur. Puis quand on est jeune, faut bien nourrir ses cellules.
Bien, écoute, tu fais comme tu le sens. Et n'oublie pas la flotte, il devrait y avoir des petites bouteilles au ref. Au pire, on embarquera un pichet. Mais en tout cas, merci, c'est gentil de t'en occuper comme tu le fais. Je laissais partir mes six protégés. Puis fermer la marche par l'extinction du couloir, non sans avoir averti Kevin de notre départ. Sylvain stationnait en bas de l'escalier.
Eh bien Sylvain, tu ne retrouves plus ton chemin jusqu'au réfectoire ?
Non, je t'attendais. C'était juste pour papoter avec toi, les os sont un peu trop gamins des fois. Allez, viens, on va rejoindre les gamins, comme tu dis, en espérant qu'on ne se perde pas parmi ces flocons géants. J'ai l'impression que la tempête reprend du poil de la bête.
Armé d'un sourire empreint de bienveillance, je profitais de la poignée de secondes qui nous séparait du réfectoire pour féliciter l'élève sur ses résultats scolaires, sans oublier d'intégrer un petit message bien personnel. Tu sais, Sylvain, si tu ne faisais pas tant d'âneries en douce à l'internat, franchement, tu serais un élève parfait avec les notes que tu as. Ça fait plaisir de voir des gamins qui sont récompensés pour leur travail. Pardon, des gamins. Oh, excuse-moi, je vais pas te choquer. Des lycéens. T'as une idée du boulot que tu veux exercer plus tard ou du secteur dans lequel tu veux t'investir ?
Ouais, j'ai envie d'intégrer la NASA.
À la NASA ?
Ouais, pour découvrir ce qui se passe là-haut, concevoir des fusées ultra performantes qui visiteront les planètes les plus lointaines pour y faire pousser des patates dessus et tout ce genre de trucs.
Mais écoute, Sylvain, je crois que si tu continues de bosser avec le même sérieux, tu pourras postuler partout et pas qu'à la NASA.
Mais bon, attends-toi avant la célébrité à devoir occuper des petits boulots pour payer tes études. Tu sais, comme je dis souvent, on ne rencontre le succès avant le travail que dans le dictionnaire. Cela dit, tu crois pas que sur Terre, il reste encore quantité de choses à découvrir et que tes compétences, finalement, pourraient être tout aussi utiles avant de penser à Mars ou je ne sais quelle autre planète à patates ?
Ouais, mais non, moi je veux aller à la NASA. Il y a plein de mystères énormes là-haut, j'ai envie de tout savoir.
Mais écoute... Je suis convaincu qu'il y reste aussi pas mal de mystères énormes sur Terre. Et ça coûterait moins cher à découvrir, enfin, c'est mon opinion, hein.
Ouais, ouais, mais non. C'est l'espace ou rien.
Bon. Alors écoute, si c'est ce que tu veux faire, eh bien, je t'approuve dans tes objectifs. Ne laisse personne te démotiver. Va jusqu'au bout.
C'était quoi ce boucan ?
Un bruit sourd et grave stoppa net notre marche. Le phénomène fut saisissant. Sylvain et moi baissâmes la tête par réflexe.
Oui, c'était quoi ce boucan ? Demandai-je à Sylvain.
On aurait dit un sac de farine géant qui tombait par terre. Mais je sais pas d'où ça vient que ce vent, il faudrait que ça recommence.
Oui, bien, je n'y tiens pas spécialement, hein, rétorquai-je, sans cacher mon inquiétude.
Les cinq autres internes s'étaient déjà engouffrés dans le réfectoire d'où nous étions à mi-chemin. Sylvain et moi regardâmes tout autour de nous à la recherche d'un début d'explication à ce bruit. Exercice rendu difficile par les flocons qui engraissaient et le vent cinglant qui les envoyait se cramponner aux cils. L'effet de surprise dissipé et nos têtes relevées, je fus le premier à rompre le silence avec pour objectif de rassurer tant l'élève que moi-même.
« Bof, si ça se trouve, c'est le bâtiment qui craque avec le froid. »«
Ou alors c'est un palier qui s'affaisse. »«
Allez hop, les murs sont tellement vieux, on va finir écrabouillés. »
Les filles croient aussi qu'il y a des fantômes dans leur dortoir, comme si c'était un manoir hanté, c'est dire l'état du bâtiment. Il est prévu que l'internat soit remplacé un jour, mais bon, à mon avis, il s'écoulera peut-être avant qu'on obtienne le budget pour le reconstruire.
Mais c'est prévu quand pour le remplacement ?
Bah, comme je te disais, quand il y aura des sous.
Ah, d'accord. Bon, bah donc ça s'écroulera avant. »
Ah, tu sais, le jamais défaitiste et le un jour est porteur d'espoir, expliquai-je pour encourager mon compagnon de voyage au nez rougi.
Allez, Sylvain, on se dépêche de rejoindre les autres avant d'être transformé en bonhomme de neige.
Au lieu d'amorcer la marche vers le réfectoire, je regardais un peu partout autour de moi.
malgré le froid et la neige, et la faim, la volonté de connaître l'origine du bruit fut plus forte. Sans nous concerter, Sylvain et moi restâmes sur place une dizaine de secondes supplémentaires, sans mot dire. Juste à prêter attention à tout, comme on attend d'une réplique, qui pourtant ne vint jamais. Bon, allez, viens, Sylvain, cette fois on va manger, ça ne sert à rien d'attendre que ça recommence. Avant de pénétrer dans le réfectoire pour retrouver les internes, je laissais Sylvain prendre de l'avance et me retourner, anxieux, pour jeter un dernier coup d'œil en direction de la fenêtre de la chambre de Kevin. Moi, je savais qu'il ne risquait rien, mais je restais réticent à l'idée de laisser un élève seul, même si les circonstances exigeaient qu'aucun problème de sécurité ne se présentait, pour autant que le bâtiment accepte de rester debout, bien entendu. Finalement, les sommeils eurent raison de mon inquiétude et je laissai l'internat derrière moi. Découvrir ce que le cuisseau nous avait réservé pour le dessert fut ma nouvelle priorité. L'absence de toute contrainte horaire nous avait contraints, ou plutôt encouragés, à prolonger le repas. Guilhem était remonté apporter un plateau bien garni à Kevin avant de nous rejoindre autour de l'unique table basse, l'unique table dressée pour la soirée. Le cuisinier surprit tout le monde par sa générosité et la diversité des plats. Même le four micro-ondes parut nous remercier pour chaque assiette réchauffée. Les jeunes avaient été loquaces, sans être bruyants à l'excès ni déplacés. Les discussions sur tout et rien avec le pion avaient autorisé l'ouverture de sujets d'une grande pertinence qui me rassurait sur l'intégrité des facultés cognitives de la jeunesse d'aujourd'hui. Non, les réseaux sociaux ne les avaient pas tous abêtis. Et oui, l'espace internet affûtait leur esprit critique. Que de bonnes nouvelles en fait. Et alors que j'aurais presque parié le contraire le matin, aucun interne ne fut porté à faire le fou. Ils appréciaient sans réserve le silence et la tranquillité d'un dortoir presque vide, ainsi que l'absence de cours bien entendu. Et ils comptaient bien profiter de ce calme jusqu'à la fin de la semaine. Le retour au dortoir fut rapide, le froid et le vent n'incitaient pas à la flânerie. Les flocons avaient encore augmenté en intensité, le temps du repas, et certains élèves manifestèrent leur inquiétude de retrouver un maître de nage au réveil. À l'heure du second appel, plus une formalité qu'autre chose, assis à la table dans le couloir du dortoir, je parcourus du regard le petit groupe qui se tenait devant moi. « Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, c'est parfait, tout le monde là. Je vérifie que vos têtes sont les mêmes. Voilà, c'est bon. Guilhem, Kevin a mangé un peu ?»« Ouais, il a presque tout fini. » »« Alors si l'appétit revient, c'est bon signe. Bon les gars, je ne vous cache pas que pour occuper vos soirées, il va falloir faire preuve d'imagination. Et on a encore plusieurs films à regarder !» interrompit Samy. « On en a pour toute la semaine !» Les cinq autres approuvèrent le programme, ravis de ne pas être soumis à quelconque devoir ou étude obligatoire. « Bon, c'est bien beau de passer votre temps à visionner des films depuis cet après-midi, mais vous l'avez prise quand, votre douche ?» Quentin crut que le moment était venu de vérifier si son humour fonctionnait toujours. « On sent mauvais. » Je le regardais d'un air désolé. Puis se ravisa pour emprunter un chemin plus sérieux. « On s'est douché avant de se lancer le premier film, pour être tranquille. »« Bon, très bonne idée, les gars. Et à qui appartient l'ordi ?»« À moi !» répondit Samy. « Les gars, voilà ce que je vous propose. » Pourquoi ne pas regarder tous vos films en bas sur grand écran au lieu de vous tasser comme des sardines sur un lit ? Étienne prit la parole. Bah, au début, on voulait te demander, mais comme on nous dit qu'à chaque fois qu'on n'a pas le droit de mettre nos clés sur USB sur la grande télé du bas, bah, on a fait au plus vite, on a préféré regarder sur l'ordinateur. Oui, c'est vrai qu'on a eu des problèmes en journée avec ça. Mais cette semaine, on va être plus souple, sinon on va s'ennuyer à mort. Alors tant que vous restez calme et ne chahutez pas, au moins par respect pour Kevin qui ne demande qu'à se reposer, je suis prêt à lâcher du lest et à vous accorder plus de liberté. C'est donc donnant-donnant, sinon je serre la vis. Est-ce que le marché vous convient ? Les six internes manifestèrent d'une façon ou d'une autre leur approbation. Les uns par un pouce en l'air, les autres par un simple « OK ». Seul Sylvain, l'intello, opta pour une réponse plus travaillée qui l'accompagna d'un large sourire candide. « Bon, j'accepte ta proposition. » Il n'y a qu'Étienne qui râla un peu. Comme d'habitude, touché dans son amour propre d'avoir été englobé dans un groupe avec lequel il avait fallu établir un marché pour obtenir du sérieux. Lui qui était de naturel si raisonnable.
Bon, c'est parfait. Avec votre aide, on va donc passer une semaine très cool. Je place quand même une limite et vous demande de vous y tenir. Débrouillez-vous pour que votre film n'aille pas au-delà de 22h30 et assurez-vous de sa durée avant de le lancer, c'est compris ? Et bien entendu, aucune vidéo de galipette, hein ? Vous pensez bien que je circulerai pour y veiller. Les rires à peine étouffés des ados fusèrent, comme pour tenter d'exprimer une évidence. Aucune vidéo de galipette était présente sur l'ordinateur. Et j'ai pas fini, les gars. Tant que Kevin sera mal en point, je ne veux aucun chanteur sous la douche. Vous ne remontez pas en fanfare du foyer, vous retenez la grande porte d'entrée pour éviter qu'elle grince. Et vous penserez aussi à ranger les fauteuils, ça ne prend que 2 secondes. Idem pour les papiers qui traînent. Je veux un foyer nickel. Je me lancerai dans une dernière ronde à 23h pour m'assurer que vous avez bien réintégré vos pieux et fermé vos lampes. L'extinction des feux, c'est pour 22h, on ne change rien. Et s'il vous reste des trucs à faire, vous aurez toute la journée du lendemain. Alors soyez raisonnables, les gars. Et pour les portables, vous connaissez mon point de vue sur la question, donc vous le désactivez pour la nuit. De toute façon, avec cette tempête, le réseau fonctionne mal ou pas du tout. Ouais, pour moi, même chose, à Saint-Quentin, j'ai qu'une bûchette et des fois, elle disparaît. Samy et Jimmy vérifièrent l'état du réseau mobile. Moi, j'ai rien, assis une barre. Ah non ! Tergiversa Jimmy, qui agitait son appareil dans toutes les directions pour tenter de capter un signal stable. Et comment je fais si je peux pas envoyer de message ? S'inquiéta Étienne, qui se voyait déjà coupé du monde. Guilhem lui souffla la réponse. Bah, tu feras comme avant, quand on n'envoyait pas de message, tout simplement. Bah, tu parles comme mes vieux, toi. Ah, les gars, c'est aussi un bon exercice pour tous, hein. Pas de téléphone jusqu'à la fin de la tempête, ça veut dire pas de coup de fil et pas de Facebook. Je vous promets que vous survivrez. Oh, ça fait comme dans un film d'horreur ou de film du monde, expliqua Samy. Oh, j'ai vu ça une fois. Les mecs, ils arrivaient pas à téléphoner pour demander de l'aide alors que des zombies les attendaient dehors pour les bouffer. Mais arrête tes conneries, tu me fous la trouille, frissonna Jimmy. Je remis tout ce petit monde sur le rail de la vie réelle. Écoutez les gars, on arrête de délirer avec vos histoires de fin du monde, c'est juste de la neige et du vent. La semaine prochaine, vous n'y penserez même plus. Je veux que vous me promettiez d'être sérieux toute la semaine, notamment en journée où je ne serai pas là pour vous surveiller. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Approbation générale, chacun à sa façon. Fin du chapitre 2 et fin de la lecture pour ce soir. Voilà, on est arrivé au bout pour ce soir. Oh, 19h08, j'ai encore un petit peu dépassé, mais c'était moins méchant. Alors, bah écoutez, vous étiez tous en train d'écouter, donc vous n'avez pas laissé beaucoup de messages, mais je vois qu'il y avait du monde qui écoutait sur mon petit compteur, donc c'est parfait. Donc demain, notre aventure continue. On retrouvera Frédéric et ses 7 internes le soir à l'internat. D'ici là, soyez sages, protégez-vous comme d'habitude, restez confinés autant que faire se peut, pas de bêtises, arrêtez avec les chaînes d'info en continu, ce n'est pas bon pour le moral, regardez que des documentaires intéressants qui vous rafraîchiront la tête. Merci pour votre fidélité, je vous embrasse tous, bye bye.